Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va pas parler de stratégie, d'astuces, de conseils, mais on va aller analyser un business qui existe, un business qui explose, un business que j'analyse un peu de loin parce que je vous avoue je ne suis pas consommatrice. Néanmoins c'est vrai que c'est un business que j'analyse un petit peu de loin parce que je suis fascinée par toutes les personnes qui créent du contenu et qui vendent et qui font les choses bien. Et aujourd'hui on va parler de la youtubeuse influenceuse Andy Ella. Je ne sais pas si vous la connaissez, si ce n'est pas le cas je vous mets son profil juste en dessous de cet épisode de podcast. L'idée c'est pas de parler de son activité d'influence mais plus de se pencher sur sa nouvelle marque, une marque de matcha, je pense que vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens en ont parlé quand elle a lancé sa marque, donc on va parler aujourd'hui de Milia Matcha. Pourquoi est-ce que je vous fais cet épisode de podcast maintenant et pas au moment du lancement ? Parce que j'aime bien voir comment ça va retomber, parce qu'effectivement quand on lance un projet, quand on fait un vrai gros lancement, il y a une effervescence qui se crée au début, et puis après ça peut retomber comme un soufflet qui sort du four. Là, l'important, c'était de voir la durabilité également des actions qu'elle allait mettre en place, etc. Et surtout, je suis tombée sur un TikTok d'elle il y a maintenant quelques jours, enfin du moins de sa marque, et ça m'a inspiré cet épisode de podcast, puisque du coup, après, je suis allée analyser un peu tout ce qui avait été fait. C'est vrai que vous êtes souvent nombreuses à me dire « Oui, mais moi, je vends des produits physiques, mais moi, je vends des produits digitaux. Est-ce que ça s'applique à mon secteur d'activité? Est-ce que si moi, je fais ça, est-ce que ça peut marcher ?» Bref. 1000 questions sur vos actions, sur vos business, sur est-ce que les actions vont pouvoir vous rapporter les résultats que vous souhaitez obtenir. Donc pour mettre tout le monde d'accord, on va parler aujourd'hui de produits physiques, mais quand bien même vous vendez des produits digitaux, vous allez voir que tout ce que j'ai pu analyser et tout ce que je vais vous ramener aujourd'hui va également s'appliquer à votre business. C'est pour ça que j'adore les techniques qu'ils ont mis en place, parce que ça s'adapte à tout le monde. Donc probablement que vous ne connaissez pas Andy Ella, et moi il y a quelques mois, enfin je ne l'ai pas connue à travers sa marque, mais il y a quelques mois je ne la connaissais pas non plus puisqu'elle est quand même relativement jeune et elle fait partie d'une génération YouTube que moi je ne suivais pas. Donc je ne la connaissais pas du tout et je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur son profil quand elle a commencé davantage à parler d'entrepreneuriat, à dire qu'elle était en train de prendre des locaux, comment est-ce qu'elle était en train de grandir, etc. Et c'est vrai que moi, c'est des thématiques que j'aime beaucoup parce que j'adore les profils d'influence ou autres qui font plein de choses en même temps et qui ne vont pas se conditionner à un seul et même business. Et moi, ça me passionne littéralement de voir des projets se développer. Donc, elle est quand même relativement jeune, mais ce n'est pas le point que je veux aborder dès le début. Ici, j'ai directement envie de mettre les pieds dans le plat et vous dire que oui, elle est partie sur un marché hyper concurrentiel, puisque avant Milia Matcha, il y avait déjà d'autres marques hyper bien implantées au niveau du marché, mais ça ne l'a pas empêché de se lancer quand même. Donc quand bien même vous avez de la concurrence et vous avez peur de la concurrence, allez-y quand même, ça ne veut pas dire que vous n'obtiendrez pas de résultats. La preuve en est qu'elle arrive sur un marché hyper concurrentiel. Elle a cassé littéralement Internet pendant quelques jours et elle a fait un lancement absolument dingue. Donc ce n'est pas parce qu'il y a déjà des acteurs majeurs sur le marché que ça va impacter vous les résultats que vous allez obtenir. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce succès? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait qu'elle se développe aussi rapidement? Qu'est-ce qui a fait que également elle s'est positionnée aussi vite? Alors j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient oui mais pour elle c'est facile, elle a déjà une communauté, oui mais elle avait déjà des gens qui la suivaient, etc. Moi j'ai pas envie d'entamer cet épisode de podcast avec ce point. J'ai envie d'abord que l'on parle de la création de son produit. Il faut savoir que si vous n'avez jamais goûté le matcha, c'est une boisson qui est très amère. Beaucoup disent que ça a le goût d'herbe, etc. J'espère que vous avez déjà goûté, sinon je vous invite à le faire. Vraiment, c'est par curiosité probablement que vous allez le faire. Mais faites-le, vous verrez que ça peut être assez, oui, amer. Ça n'a pas forcément bon goût. Et c'est vrai que la première fois qu'on goûte le matcha, c'est pas non plus délicieux, quoi. Tu te dis pas, ça va devenir ma boisson favorite. Et elle, elle a toujours bu du matcha. Sa mère l'a toujours inculqué un peu à boire du matcha au quotidien, etc. Et du coup, quand elle partageait ça, tout le monde à chaque fois dans la rue ou même sur les réseaux lui disait « Mais comment est-ce que tu fais pour boire cette boisson ? C'est absolument horrible !» Une fois, deux fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois probablement qu'on lui a dit ça, et du coup une idée est germée. Donc l'idée, elle l'a pas sortie de son chapeau, et elle s'est pas dit « Ah oui, je bois du matcha, j'aime bien, et puis d'autres personnes le vendent, donc je vais le vendre ». Elle a pris le contre-pied de se dire « Beaucoup de monde aujourd'hui m'interpelle pour me dire comment est-ce que je bois du matcha, parce que c'est trop amer, les gens n'aiment pas ». Quand bien même le matcha a beaucoup de bénéfices et beaucoup de vertus pour le corps et pour la santé, les gens, bah, y a beaucoup de monde aujourd'hui qui n'arrivent pas à boire du matcha, quand bien même ils aimeraient remplacer le café par du matcha ou du thé par du matcha, peu importe. Je suis désolée le nombre de fois où je vais dire matcha dans cet épisode de podcast, je m'excuse par avance, mais tout ça pour vous dire que quand bien même vous avez envie d'adopter cette boisson au quotidien, ça peut être très difficile de par le goût. Donc elle a identifié ce problème et petit à petit elle s'est dit, ok, donc les acteurs sur le marché actuellement de matcha vendent du coup cette boisson, mais ça reste quand même très amer. Du coup, elle a développé, elle, un produit qui est très doux, où elle a supprimé l'amertume. Donc, je n'imagine pas le nombre de mois de développement et de conception pour trouver la solution idéale. Mais quand bien même aujourd'hui, les gens qui boivent du coup le matcha de sa marque le disent, ils sont formels. Moi, je ne l'ai pas encore goûté parce qu'à chaque fois que j'ai voulu commander, c'était toujours en rupture de stock. Néanmoins, toutes les revues que j'ai vues, tous les contenus que j'ai pu lire, les gens disaient à chaque fois que limite, on ne dirait pas du matcha tellement c'est doux et tellement c'est agréable. Donc là, cet épisode n'est absolument pas du tout pour débattre si le matcha est bon ou pas bon, etc. Mais c'est juste pour vous dire que déjà de base, l'idée centrale de tout vient d'un constat qu'elle fait, mais surtout, elle vient d'un élément que son marché lui indique. Tout le monde lui disait que c'était trop amer, que c'était pas bon, qu'il n'arrivait pas, que voilà, quand bien même t'es en train d'en boire 2, 3, 10, ben quand ça passe pas, ça passe pas. Elle, elle a voulu prendre le contre-pied de se dire « ben moi j'aime ça et je vais faire en sorte que les gens aiment également ». Et ça déjà de base je trouve ça hyper intelligent et je vous le dis à chaque fois, faites en sorte de développer un produit qui va résoudre un vrai problème. Alors oui, quand bien même on pourrait se dire « oui, enfin le fait de pas aimer le matcha c'est pas forcément un problème, t'as 1000 boissons au quotidien, certes, oui ». Néanmoins, aujourd'hui, c'est une boisson verte que l'on voit absolument partout sur les réseaux. Les gens la trouvent peut-être esthétique et les gens ont envie petit à petit de réduire leur dose de caféine, par exemple. Donc, ils ont envie de trouver une alternative. Le matcha est la première alternative au café, par exemple. Donc, il y a ici une vraie curiosité vis-à-vis de ce produit. Est-ce que demain, vous n'en buvez pas ? Est-ce que ça va être la fin du monde ? Pas du tout. Le problème n'a pas besoin d'être gigantesque. Néanmoins, visiblement, au vu de la demande et au vu aussi des ventes qu'elle fait, il y avait un réel besoin. Deuxième point qui est en lien du coup avec le premier par rapport au développement du produit, etc., elle s'est du coup différenciée déjà de par le goût, mais surtout de par les nouvelles saveurs qu'elle a mises en avant, mais surtout de par le savoir-faire qu'il y a autour de son produit. Elle le dit très souvent, mais le matcha qu'elle a choisi, c'est une espèce rare. Ils ont mis beaucoup de mois à trouver le bon producteur, à trouver le bon fournisseur. D'ailleurs, le fournisseur est directement au Japon. C'est produit par une petite famille qui est d'ailleurs, elle le dit hein, dans sa communication, hyper contente du succès de la marque parce que elle a quand même changé la vie d'un petit producteur au Japon grâce à sa marque. Donc, il y a ici des valeurs qui sont hyper forte. Elle met en avant la source et la culture de son produit. Donc en fait, limite, aujourd'hui, Milia Matcha, c'est même plus qu'une simple canette de matcha. Aujourd'hui, c'est une vraie culture de marque, c'est une vraie histoire. Ici, on n'est pas que sur la vente d'un simple produit. Et si vous allez analyser un peu la communication, vous verrez au fil du temps que, mine de rien, déjà, Andiella est la principale consommatrice de son produit. Quand bien même elle ne va pas vous dire tous les jours qu'elle vend du matcha, etc., tous les jours dans sa communication, vu que ça fait partie de sa routine, vous allez voir la boisson. Mais ça va bien au-delà. Elle l'inculque et elle insuffle la culture du produit qu'elle vend, puisque si vous allez le voir, dans son contenu, elle fait des vlogs à Séoul pendant un mois ou au Japon, elle rentre vraiment dans ce type de culture, elle nous embarque indirectement dans tout l'écosystème de sa marque qu'elle a créé, puisque en fait on est toujours mis en contact avec la culture ou japonaise ou une culture plus asiatique, que ce soit de par les plats, de par les activités qu'elle va mettre en avant, de par les vidéos qu'elle va faire. On est toujours en fait dans ce truc de Milia Matcha indirectement. Et ça, c'est hyper intelligent. Vous n'êtes pas obligé tous les jours de placarder vos offres, vos produits directement auprès des gens en mode « je vends ci, je vends ça, allez découvrir mon produit, je suis en train de faire une réduction, etc. » mais plus en fait de les faire rentrer dans vos valeurs et la culture de la marque et ce que vous souhaitez que les gens gardent de votre marque. Donc en fait, tout autour du matcha, on a vraiment une narrative qui fait que, où on est sur de la comparaison de culture européenne et de la culture japonaise, je pense notamment à la dernière vidéo YouTube qu'elle a faite, où on est plus sur les bienfaits, où on est plus sur les habitudes, où on est sur des voyages, où on est également sur des législations. Par exemple, quand elle nous fait rentrer davantage dans les coulisses, je dirais, de son business d'entrepreneur, elle explique que c'est très compliqué d'avoir un fournisseur qui est au Japon, donc encore une fois, elle va chercher le produit à la source. Donc déjà, pour nous, ça nous renvoie un peu de la transparence et aussi de la qualité, de savoir que bah, c'est produit par des gens qui connaissent parfaitement le sujet. Et du coup, elle nous dit, bah voilà, c'est très compliqué de travailler avec des gens au Japon sans avoir de société au Japon. Donc elle nous montre les coulisses. Et surtout, nous, de notre côté, en tant qu'internautes, en tant que personnes qui sont en train de regarder son évolution, on a envie que ça marche pour elle. Donc limite, on a envie de lui dire... Et je l'ai lu dans ses commentaires, déménage presque à Séoul pendant 6 mois, vas-y, va au Japon, tu vas voir, tu vas trop kiffer, quitte Paris, fais en sorte de faire 6 mois au Japon, 6 mois à Paris. En fait, limite, les gens participent également au développement de sa marque. Elle l'a pas fait toute seule de son côté. Alors oui, bien entendu, elle a gardé mille et un secrets et j'ose imaginer à quel point ça a dû être compliqué en manière logistique. Néanmoins, tout ce qui va être produit, tout ce qui va être retour, etc., elle prend en compte ce que disent les gens. D'ailleurs, si vous allez voir une des dernières vidéos de sa marque, elle expliquait que les gens se plaignaient que parfois le matcha faisait un peu des grumeaux. Et du coup, elle explique pourquoi ça faisait des grumeaux, et elle montre en fait les anciens produits et les évolutions qu'ils ont apportées aux nouvelles canettes. Je crois que c'était par rapport au fait que ce soit trop fin ou pas assez fin, enfin j'ai pas très bien compris, je suis pas spécialiste de matcha, moi c'est plus le café. Néanmoins, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà de 1 la transparence et surtout les coulisses. Elle nous montre les évolutions, elle nous dit ben voilà, j'ai pris conscience des retours clients, j'ai pris connaissance de tout ce que vous m'avez dit et j'ai fait en sorte d'évoluer. Et c'est là où réellement c'est hyper intelligent parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est en train de développer sa marque de son côté. Elle intègre aussi sa communauté. Communauté qui d'ailleurs a découvert les bureaux, a découvert petit à petit ses équipes. D'ailleurs dans la création de contenu, si vous allez voir, c'est vraiment du contenu qui est très interactif, qui est engageant, où on va... voir réellement le quotidien de ses équipes, mais surtout, on va voir que les gens de son équipe sont en train également d'adopter le produit. Donc on n'est plus juste sur une simple histoire de matcha qui est trop amère. Là, on est vraiment sur un truc qui se développe si fort en termes culturels, en termes de vision, en termes de valeurs, que à chaque fois qu'elle fait un réassort, limite en fait, les ventes sont encore plus violentes que lors du lancement. Et violente, je vous dis violente dans le sens positif. Parce que déjà, on se rend compte à quel point elle peut être transparente. Alors oui, bien entendu, on ne va pas tout savoir de sa marque. Il y a des choses qui doivent rester confidentielles et il faut le respecter. Néanmoins, dans sa communication, on voit qu'elle fait réellement preuve de beaucoup d'empathie envers les gens, envers les consommateurs. Ça se voit qu'elle respecte énormément les gens qui vont investir dans le produit qu'elle a développé. Mais surtout, je trouve qu'on arrive à bien cerner la personnalité de la fondatrice dans la marque. Tout est hyper bien ficelé, tous les détails sont pensés, réfléchis. Lors du lancement, d'ailleurs, elle en avait parlé, il y a une saveur, je crois que c'était fraise ou un truc comme ça, où l'impression n'était pas hyper bien nette au niveau de l'étiquette sur la canette. Alors quand bien même nous, en tant que consommateurs, on l'aurait probablement pas vu, elle est partie tellement dans le détail qu'elle a fait une réduction sur le prix en disant que la canette n'était pas parfaite et que du coup, il était hors de question que les gens payent le prix plein de ce produit alors qu'il y avait un petit défaut de fabrication. Honnêtement, elle l'a dit elle-même et moi, après, j'ai essayé de regarder. Je vous avoue que franchement, là, il faut être hyper, hyper, hyper pointilleux pour le voir. C'est pas comme si ça a impacté réellement le produit en soi vu que c'était réellement juste le contenant. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai souci du client. Et c'est là où je vais arriver à mon dernier point, puisque là, vous avez pu le voir, c'est une personne qui maîtrise quand même la communication, qui maîtrise les éléments qu'elle veut mettre en avant, qui maîtrise l'image de marque, qui maîtrise l'histoire qu'elle veut raconter. D'ailleurs, il y a vraiment des éléments qui sont hyper, hyper bien pensés au niveau de tout ce qu'elle a mis en place, notamment le fait qu'il y ait des dons qui soient reversés à une association à chaque fois qu'il y a une commande qui est faite. Bref, vous l'aurez compris, elle est vraiment allée dans le détail du détail de fou. Néanmoins, je vous ai toujours dit au sein de ce podcast reste qu'une bonne communication ne peut pas sauver un mauvais produit. Et c'est là où on va revenir à la base de tout. Le produit résout un vrai problème et surtout, visiblement, le produit est qualitatif. Moi, j'ai très envie de le tester parce que j'ai aussi envie de me faire ma propre opinion puisque j'ai goûté d'autres matcha et j'ai détesté. Entre vous et moi, franchement, c'était vraiment pas bon. Voilà, on va pas faire semblant. Donc, j'ai très envie de le tester pour voir un peu ce que ça donne au niveau du goût parce que vraiment, tout le monde dit qu'il est succulent et que c'est vraiment incroyable. Et c'est là où réellement réside le succès de sa marque. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle fait un réassort, il y a autant de nouveaux clients qui veulent aller découvrir la marque, mais il y a également des clients qui ont déjà acheté et qui ont envie de s'en procurer encore parce qu'il y a une certaine récurrence. Le matcha déjà se termine et surtout, si elle se positionne comme « c'est mon matcha préféré », les gens vont constamment aller vers elle. Donc elle va se positionner sur le marché. Donc il y a vraiment ici un jeu entre une très bonne communication, un très bon lien qu'elle fait aussi avec sa communauté. Alors quand bien même, oui, certaines personnes pourraient dire oui, mais pour elle, c'est plus facile parce qu'elle a déjà une communauté. Je suis plus ou moins d'accord parce qu'il y a énormément de personnes, notamment dans l'influence, qui se lancent, qui essayent et qui quand bien même ne vendent pas alors qu'ils peuvent avoir des millions, voire des milliers de followers. Et pour autant, ça ne vend pas parce que c'est pas terrible. Donc le fait d'avoir déjà beaucoup d'abonnés ne veut pas dire que vous allez vendre, bien au contraire. Là, elle a vraiment capitalisé sur une culture, un savoir-faire, un vrai problème. Elle a fait également en sorte d'écouter les gens, de faire en sorte vraiment de prendre note de ce que disent les gens pour s'améliorer encore plus. Et je pense que c'est aussi l'une des grandes forces de sa marque, la remise en question. Ne partez pas du principe que votre produit, il est fait, il est bouclé, donc on n'y touche plus. Non, un produit, il est en constante évolution, que ce soit un produit physique, mais également un produit digital. Vous devez faire en sorte d'écouter ce que vous disent les gens pour aller travailler sur les points nécessaires. Encore une fois, quand bien même ça peut parfois vous faire un peu de mal à votre ego, c'est pas contre vous, c'est juste pour vous améliorer et pour être sûr que ce que vous allez vendre à la fin va réellement fidéliser les gens. J'avais très envie d'analyser cette marque sur la durée parce que au niveau du lancement, certes oui, la communauté ici aurait pu faire un effet de levier et de se dire voilà, j'ai une certaine curiosité, j'ai envie d'aller découvrir la marque. Là oui, certes, c'est possible et c'est une aide. Néanmoins, il y a après tout le bateau et qu'il faut stabiliser, c'est-à-dire que, ok, là oui, certes, la marque, elle est lancée, mais après, il faut quand même continuer à faire des ventes. Et c'est pour ça que j'ai voulu attendre un petit peu. Et la folie est telle que aujourd'hui, dès qu'elle fait un réassort, c'est même encore limite mieux que le lancement parce que le produit est tellement bon. Elle a tellement fait en sorte d'avoir une bonne communication, d'avoir un bon produit et d'écouter ce que les gens disaient en retour qu'elle est toujours en train d'évoluer. Donc comme vous avez pu le voir, avec un produit physique qui là en l'occurrence était le matcha, on a pu analyser plein de points importants, que ce soit par rapport à la qualité du produit, par rapport à comment est-ce qu'on pense une offre, comment est-ce qu'on va créer le contenu, quel est le type de contenu que l'on va mettre en avant, quel est le type de culture que l'on va mettre en place. Culture, je parle de culture de marque, vraiment une culture, une histoire, des valeurs que l'on veut mettre en avant pour être sûr en fait de ne pas parler tout seul et d'intégrer les gens à votre projet pour être sûr que les gens comprennent où est-ce que vous voulez en venir. Là, bien entendu, c'était une influenceuse et ça l'est d'ailleurs toujours. Donc elle a bien sûr une communauté qui la suit et qui a envie qu'elle réussisse en tant qu'entrepreneur et qui est là et qui va voir toutes ses évolutions, certes oui, mais elle a aussi réussi à convaincre une autre audience qui probablement ou ne la connaissait pas ou qui était consommatrice d'autres produits. Ça ne veut pas du tout dire que certainement les personnes ont complètement changé leurs habitudes de consommation et ont tout adopté Milia Matcha et que du coup elles ont abandonné les autres marques d'avant. Pas du tout. Il y a encore de la concurrence et la concurrence, elle est là, elle est présente. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont fait du coup des dégustations avec tous les concurrents en intégrant du coup la marque. Mais encore une fois, les concurrents ici ont aussi bénéficié de la visibilité de Milia Matcha. Parce qu'avec la sortie de cette nouvelle marque, les personnes se sont dit « Ok, du coup maintenant je vais aller comparer ce qui se faisait déjà et ce qu'elle, elle est en train de raconter. » Parce que la promesse, elle est tellement forte par rapport à l'amertume, par rapport au goût, par rapport à tout ce que tout le monde a toujours dit sur le matcha. Du coup, il y a ici une vraie curiosité. Donc, quand bien même ça a servi à Milia Matcha de se développer et d'avoir un très bon lancement et d'avoir une très belle évolution de marque, il y a également les autres concurrents qui ont aussi un peu bénéficié de cette visibilité et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui sont allés acheter chez les autres pour pouvoir comparer l'amertume. Donc comme quoi, la concurrence n'est pas toujours quelque chose de négatif. C'est un épisode un petit peu différent et je crois que j'avais jamais fait d'épisode comme ça, un petit peu de décryptage. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais toujours de mon côté mais je pense pas du tout à vous le partager. Là je voulais partager réellement parce que j'ai vu plusieurs fois son contenu revenir ces derniers jours et je me suis dit ok, là ça fait très longtemps que je suis en train d'analyser, plusieurs mois que je suis ces évolutions et j'avais envie de vous montrer que quel que soit votre type de business, quelle que soit l'approche que vous avez, ici, il y a des critères forts et il y a des marqueurs forts que vous allez pouvoir vous réutiliser, réadapter. Et pour un passage à l'action, si vous ne savez pas quoi faire actuellement après avoir écouté cet épisode de podcast, n'hésitez pas à aller dans votre base de données clientes et à juste leur envoyer un email pour savoir quelle est l'expérience qu'ils ont vécue avec vous, qu'est-ce qu'ils auraient amélioré ou même mieux, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir qu'ils n'ont pas eu. Comme ça, vous déjà, petit à petit, ça vous permet de vous remettre en question et ça vous permet de vous améliorer. Si vous êtes dans un cas de figure où vous êtes en train de développer une offre ou que vous allez développer une nouveauté, etc., n'hésitez pas à aller sonder les gens, envoyer des messages, des DM, créer des formulaires, faites en sorte de récolter des témoignages des gens qui vont avoir des vrais problèmes pour que vous puissiez, vous, développer une offre sur un problème existant et pas partir sur le fameux « je pense que ». Le fameux « je pense que », généralement, on va droit dans le mur parce que généralement, on se trompe, parce que c'est influencé, on a une opinion qui est basée sur plein de trucs, sur notre éducation, sur ce qu'on a vécu, etc. Et parfois, c'est complètement biaisé et c'est complètement à l'opposé de ce que les gens vont pouvoir ressentir ou sont en train de vivre. Donc, je vous invite réellement à rentrer en contact avec les gens, surtout que... Il faut savoir que la problématique des gens au premier trimestre de l'année ne vont pas du tout être les mêmes problématiques au mois d'août et encore moins les mêmes au mois de décembre. Il y a ici des évolutions. Donc quand bien même vous avez déjà des produits, n'hésitez pas plusieurs fois dans l'année à demander aux gens quels vont être leurs besoins, dans quelle situation ils sont actuellement, quels sont les sentiments qu'ils sont en train de ressentir. Vous pouvez le faire de manière très, très simple, en stories, avec des sondages, avec des FAQ ou même par email, peu importe, il y a ici plein de méthodes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si le fait d'avoir des analyses comme ça de business que vous connaissiez ou non d'ailleurs vous inspire et vous donne d'autres idées et vous permet d'adopter des nouvelles choses sur lesquelles vous n'aviez ou pas pensé ou pas réfléchi ou vous n'aviez tout simplement pas eu l'idée. Si ça vous a plu, je vous invite également à noter cet épisode de podcast quelle que soit votre plateforme d'écoute, notamment sur Spotify ou Apple Podcast. Ça vous prend que quelques secondes et moi ça me fait chaud au cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite !